Ça me fait particulièrement plaisir ce soir de vous présenter ce sujet, Sola Scriptura, l'écriture seule. Et puis je vous propose, pour qu'on puisse ensemble traiter ce sujet ce soir, 7 points. Le premier point, je vous propose qu'on cherche ensemble quelles ont été finalement les causes de la réforme. Et nous verrons qu'une des causes de la réforme concerne directement notre thème de ce soir. J'aimerais aussi que nous puissions nous arrêter quelques instants sur une partie un petit peu historique où nous pourrons voir l'impact que le texte biblique a eu sur tous ceux qui ont précédé la réforme, qu'on appelle les pré-réformateurs, et puis tous les réformateurs eux-mêmes, de voir quel était leur rapport au texte biblique, qu'est-ce qui s'est passé avec le texte biblique pour eux. J'aimerais aussi, en troisième point, que nous puissions démontrer finalement que la réforme est un retour à l'enseignement des apôtres et des pères de l'Église. Nous nous arrêterons plus longuement sur ce que signifie l'écriture seule, sola scriptura, et puis nous nous arrêterons aussi sur cette phrase que l'on décryptera ensemble, solo scriptura et non solo scriptura. Nous dirons aussi 2 mots de la contre-réforme, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé peu de temps après la réforme, pour bien situer dans ce contexte historique très animé, qu'est-ce qui s'est passé après ces différentes prises de position des réformateurs quant au texte biblique. Et puis ensuite, je vous invite à réfléchir ensemble, que faisons-nous de cet héritage? Alors, le premier point, à la recherche des causes. Il y a de nombreuses thèses qui ont été écrites là-dessus. Ce n'est pas en 5-10 minutes d'introduction qu'on va pouvoir balayer toutes les causes qui ont amené la réforme. Ce mouvement a été souverainement permis par Dieu, et c'est l'action de Dieu à travers différentes de ces causes qui ont permis cette réforme de l'Église. Et vous le savez, cette réforme de l'Église a aussi permis une réforme de la société. Et il y a beaucoup de facteurs différents qui l'expliquent. Alors on peut citer des facteurs historiques, des facteurs sociologiques liés à la sociologie de ce moment-là, des facteurs politiques, religieux, et puis un peu tous ces facteurs-là ont concordé ensemble pour que ce mouvement touche l'Europe entière. Parce que c'est ça qui est fantastique, c'est que la réforme, ça n'a pas été à un seul endroit. Alors bien sûr, il y a quelques endroits clés, mais c'était vraiment un événement d'une grande ampleur qui a pris sur l'Europe entière. Et moi, je vous propose quelques causes. Je vous dis tout de suite, elles ne sont pas exhaustives, il y en a plein d'autres, mais il me semble que c'est intéressant de s'arrêter sur celles-ci. Le premier point que l'on peut mentionner sur la réforme et la cause de celle-ci, c'est la corruption du clergé. Le bas clergé, en général, on nous dit qu'il est grossier, ignorant, immoral, une grosse immoralité, alors que le haut clergé, les évêques et plus hauts, se discréditaient par leur ambition, leur mondanité et leur avarice. On cite notamment l'antipape Jean XXIII, qui avait un fils illégitime. Hein, les prêtres et la hiérarchie étaient censés être célibataires. Lui, il avait un fils illégitime qui s'appelait César et qu'il favorisait pour ses affaires. C'était au début du XVe siècle.
Ça n'a rien à voir ici. Un fil qui s'est décroché. Ah, c'est tout beau. Il y a des choses qui n'ont rien à faire là.
Voilà, c'est tout bon. Excusez-moi. Et puis, ce fils illégitime de Jean XXIII, César, était favorisé dans ses affaires par son père qui était pape. Et puis, cet antipape était tel que le concile de Constance, en 1415, l'a destitué avec 70 chefs d'accusation. 70 chefs d'accusation, dont vol, inceste, viol, etc., 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 je ne vous les cite pas tous. Donc, une corruption incroyable du clergé. Et les vrais croyants ne le supportaient plus, évidemment. Le trafic des indulgences, il faut toujours une date. Alors, dans un événement d'une telle ampleur, il y a une date qui a été choisie. C'est celle du 31 octobre 1517, donc il y a 500 ans, le jour où Martin Luther, avec ses 95 thèses, il les placarde à l'entrée de l'église de Wittenberg. Et puis, là, il s'élève en particulier, si vous lisez ces 95 thèses, vous constatez que le thème principal, c'est les indulgences, ce trafic des indulgences. Alors, pour comprendre le trafic des indulgences, il faut comprendre un petit peu la doctrine catholique. Qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait, le péché est effacé par le sacrement du pardon. Confession. Jusque-là, on est d'accord. Mais ce sacrement n'enlève pas la peine temporelle due au péché. Donc il y a encore une peine temporelle qui était due au péché. Elle se traduit généralement par un temps de purgatoire si elle n'est pas d'abord purgée sur terre par des actes de foi et de charité. Il fallait donc des actes de réparation. Cette peine temporelle peut être atténuée, voire effacée par l'indulgence. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme type d'indulgence ? Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour finalement effacer cette peine temporelle, en sachant que du côté de Dieu, c'était réglé, mais il fallait effacer cette peine temporelle vis-à-vis de l'Église par quelques bonnes œuvres. Alors il fallait, par exemple, on proposait d'adorer le Saint-Sacrement durant 30 minutes, de réciter le chapelet dans l'Église seul ou en groupe. Aujourd'hui encore, on ajoute à ça, par exemple, recevoir la bénédiction papale Urbi et Orbi, participer aux Journées mondiales de la jeunesse. Si vous faisiez ces différents actes, eh bien, vous faisiez ainsi une indulgence et vous annuliez ou répariez en partie la peine temporelle liée au péché, cette dette que vous aviez, non pas vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de l'Église. Et puis, plusieurs ont été bien malins, c'est de se dire, oh, mais alors plutôt que d'aller prier 30 minutes dans l'église, on va trouver un moyen. Et puis, il y avait des indulgences qui se vendaient à un certain prix par rapport au niveau de la faute qui avait été faite. Et puis, vous pouviez acheter une indulgence qui vous dispensait de réciter le chapelet, qui vous dispensait de faire ceci ou cela. Et puis, ça générait un énorme trafic. Et avec cet argent, par exemple, on a construit la cathédrale Saint-Pierre à Rome. Et c'était une source de revenus très importante pour le clergé et pour l'Église. Et ce trafic des indulgences, c'est une des choses contre lesquelles les réformateurs se sont élevés, parce que ça atteignait une proportion incroyable. Un autre élément également qui est très important dans ces causes qui ont conduit à la réforme, c'est les différents princes. Alors il y avait certains pays qui étaient plus ou moins constitués, mais il y avait beaucoup de principautés en Europe, en Allemagne en particulier. Et puis ces princes, petit à petit, s'affranchissaient du joug papal, parce que le pape dirigeait beaucoup de choses, il dirigeait en partie les États. Et puis par exemple, pour bien montrer que petit à petit on commençait vraiment à séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux, eh bien, par exemple, Luther, quand il a eu son procès face au pape Léon XX, Frédéric de Saxe, qui est le prince de la région où il était, il obtient qu'il soit jugé en Allemagne plutôt qu'il doive se rendre à Rome. Donc petit à petit, on voit le pouvoir religieux et le pouvoir temporel, qui étaient les deux politiques, qui étaient les deux relativement similaires durant toute cette période-là, petit à petit, il se crée une distance entre l'aspect religieux et l'aspect politique, ce qui permet à certains de ces princes de s'affirmer, notamment face à Rome, et de dire non, Luther ne sera pas jugé à Rome, il sera jugé en Allemagne. Un autre élément qui est très important, c'est la Renaissance littéraire. Elle avait remis, dans ces années-là, l'honneur à l'étude du grec et de l'hébreu. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour les réformateurs, parce qu'une partie d'entre eux, pas tous, ont appris ainsi dans leurs études à l'université le grec et l'hébreu, ce qui leur a donné l'accès au texte biblique original, et on verra que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, à part cette Renaissance littéraire, il y avait aussi des pré-réformateurs, on en parlera plus tard, comme Waldo, Wycliffe et Huss. Ils avaient déjà bien labouré le sol, hein, ça avait commencé à peu près 200 ans avant cela, et il y avait en Europe partout des petits groupes de croyants évangéliques qui étaient restés du témoignage de ces pré-réformateurs, et puis qui, eux, ben, quand ce mouvement de la réforme était prêt, ben, eux, ils étaient évidemment bien prêts à foncer avec. Et puis, un élément important, c'est l'invention de l'imprimerie en 1450, hein, donc on se situe un demi-siècle avant le début de la réforme, qu'on situe en 1517. Gutenberg à Mayence, eh bien, évidemment, ça a permis la diffusion sur une grande échelle et à bas prix de la parole de Dieu, et puis particulièrement aussi des ouvrages des réformateurs. Tout ce que les réformateurs eux-mêmes écrivaient, eh bien, a pu se disperser relativement rapidement en Europe, et on ne peut pas imaginer qu'un tel mouvement aurait pu avoir lieu avant l'invention de l'imprimerie. Donc on voit que chacun de ces éléments, plus bien d'autres encore, étaient entre les mains de Dieu pour qu'à ce moment-là, la réforme éclate. Alors, tous ces éléments, ils sont très importants, mais il y en a un qui est par-dessus tout important, et c'est celui qui nous occupe ce soir, c'est avant tout l'étude de la Bible et le retour à l'écriture de ces différentes personnes qui apparaît comme la cause profonde de la réforme. La comparaison entre l'enseignement de la Bible et ce qu'ils vivaient dans leur église et ce qu'ils voyaient pratiquer, se sont bien rendus compte qu'il y avait un problème, et c'est cela qui a permis cette réforme. J'aimerais maintenant que nous nous arrêtions sur l'impact du texte biblique sur les pré-réformateurs et les réformateurs. Avec ces quelques histoires de pré-réformateurs et de réformateurs, je souhaite vraiment qu'on puisse voir l'impact qu'a eu le retour à l'écriture seul pour eux et pour le troupeau dont ils avaient la charge. Alors on commence par Pierre Waldo. C'est un riche marchand lyonnais qui est lettré, intelligent, pieux, généreux. Et puis, lui, il lit les écrits de certains pères de l'Église et constate combien l'Église romaine s'est éloignée du christianisme, notamment au travers du dogme de la transsubstantiation, on en parlera après, et de l'adoration de l'hostie. Il est alors pris d'un grand désir de connaître les Écritures, mais qu'enseigne la Bible? Aidé de deux prêtres, il entreprend de traduire la Bible en langage courant. Il comprend alors où se trouve le salut, donc en traduisant la Bible, dans la foi au Seigneur Jésus mort pour nos fautes par sa seule grâce. Alors qu'il a compris ce message, il entreprend de prêcher l'Évangile et sa maison devient une florissante école et un hôpital public où il héberge et nourrit tous les pauvres qui viennent pour être instruits. Alors évidemment, Waldo et les siens condamnent les erreurs de Rome, rejettent notamment le purgatoire, les indulgences déjà, le culte des saints, les pratiques des prêtres. Et le clergé leur enjoint de cesser leur enseignement sous peine d'être excommuniés, jugés et brûlés comme hérétiques. Donc vous voyez là, on se situe entre 1140 et 1217. Nous arrivons ensuite au siècle d'après avec John Wycliffe, 1330-1384. Lui, il est effrayé à la vue de ses péchés. Il comprend aussi par la parole de Dieu, en lisant le texte biblique, ce qu'est le salut par grâce. Je vous rappelle que le texte biblique, dans ces années-là, était présent dans l'Église catholique sous forme de la Vulgate en latin, et donc qu'à moins d'avoir fait des études de latin et de pouvoir lire la Vulgate, la plupart des gens n'avaient pas accès au texte biblique. Lui, il est nommé directeur du collège de Balliol à Oxford et il démontre et explique les doctrines de la foi aux étudiants. Le dimanche, il les prêche au peuple dans un langage simple. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de ces réformateurs. Malgré leur grande instruction, leur connaissance en grec, en hébreu, en latin, ils ont le désir d'atteindre de manière simple le peuple. Il se met à prêcher avec hardiesse pour la réformation de l'Église en déclarant « L'Évangile est l'unique source de religion. Il se livre entièrement à l'évangélisation et forme des disciples. Épuisé par son travail, il se trouve à l'article de la mort, mais se rétablit et mène à bien l'œuvre qui lui tient à cœur, donner aux Anglais ce qu'aucun d'entre eux ne possède, la Bible dans leur langue. Ne connaissant ni le grec ni l'hébreu, Wycliffe la traduit à partir de la Vulgate, à partir du latin. Il travaille pendant 10 ans et en 1380, donc c'est un pré-réformateur, l'ouvrage est terminé et copié pour être diffusé. C'était la copie, là, on était juste encore avant la période de l'imprimerie. Jean Hus, 1371-1415, lui, il est né en Bohême, il a fait ses études à Prague, il est nommé prédicateur de la chapelle de Bethléem à Prague, qui peut contenir 3000 personnes. De nouveau un qui prêche dans la langue du peuple. Et puis, comme il doit se préparer pour ses prédications, évidemment, lui, plutôt que de lire toutes sortes d'écrits, lui, il choisit de sonder les Écritures. Et c'est en sondant les Écritures qu'il acquiert une conception plus claire de la parole de Dieu qu'il répand autour de lui. Il lit Wycliffe et se trouve en accord avec lui. Et malgré les opposants, protégés par l'archevêque et la reine, il proclame la vérité de l'Écriture en s'appuyant constamment sur elle pour justifier ce qu'il affirme. Hus est dégoûté par les abus, les superstitions, la moralité, les erreurs de l'Église. Il se donne comme mission de réveiller les consciences. Et puis, vous savez qu'en novembre 1414, devant le Concile de Constance, il refuse d'abjurer ce qu'il a enseigné. « Je ne rétracterai rien de ce que j'ai dit ou écrit, à moins que l'on ne me prouve que mes paroles sont en opposition avec la parole de Dieu. » Il est condamné à mort et brûlé vif. Nous en arrivons maintenant, nous avons vu là les pré-réformateurs et nous en arrivons maintenant aux réformateurs. Alors, l'un des plus connus, Martin Luther, lui, il découvre la Bible alors qu'il étudie le droit à l'université d'Erfurt. Et c'est la première fois qu'il découvre une Bible dans la bibliothèque de l'université. À 25 ans, il lit l'Épître aux Romains et sera percuté par ce fameux passage de Romains 1,17 « Le juste vivra par la foi ». Aidé par deux Augustins dans sa démarche, l'enseignement qu'il dispense à l'université est transformé, il repose sur la Bible seule. Suite à la publication de ses 95 thèses, affichées sur la porte de la cathédrale de Wittenberg et des remous ainsi créés, le pape Léon lui ordonne de se présenter devant lui. Jugé finalement en Allemagne, il refuse de se rétracter, à moins qu'on lui démontre par la Bible qu'il a tort. Donc voyez déjà ce rapport à la Bible de ces réformateurs. Ulrich Zwingli, un prêtre de Glaris, lui, il suit les cours d'un dénommé Thomas Wittenbach sur l'Épître aux Romains et lui aussi, en lisant l'Épître aux Romains, il prend conscience que le prix du pardon des péchés est payé par la seule mort du Christ. Voilà un courageux qui traduit la Bible en langue alémanique, une langue qui va évidemment droit au cœur des montagnards de sa région de Glaris. À Einsiedeln, il dénonce la grossière idolâtrie dont il est témoin. C'est là ensuite qu'il prêchera. Il s'élève contre les abus et les scandales de l'Église romaine et lance de vigoureux appels à la repentance et à la foi. Il est engagé à Zurich, il présente 67 thèses pour réformer l'Église sur la base de l'Évangile. Chaque jour, il monte en chaire pour expliquer le Nouveau Testament sur la base des textes originaux, donc il possédait le grec et l'hébreu, et non de la Vulgate. Il garde malgré tout le langage simple et coloré de ses origines. On arrive maintenant à Guillaume Farel, évangéliste itinérant, un orateur au verbe haut, plus qu'un écrivain. Il prêchait en tout lieu, sur une place publique, une chambre, et même un tribunal qu'il fréquentait souvent à cause des accusations qu'il lançait contre les prêtres qui abusaient les fidèles. Il faisait exprès, comme ça il était conduit au tribunal, et puis au tribunal il prêchait et il expliquait ce qu'il croyait. Il ne pouvait garder pour lui seul la joie et la force que lui procure la parole de Dieu. Et lui, il prêchera à Paris, à Genève, à Meaux, à Bâle, à Aigle, au Vuilly, à Morat, Tavannes, Metz, Gorze, Neuchâtel, où il restera plusieurs années. Jean Calvin, né à Noyon, en France, il étudie à Paris et lui aussi il est touché par la vérité de l'Évangile. Il s'enfuit à Bâle, où il écrit son Institution de la religion chrétienne, puis finalement, il s'établit à Genève, pressé par Guillaume Farel et Pierre Viret. Il prêche à la cathédrale Saint-Pierre méthodiquement la Bible, avec méthode donc, il souhaite fonder la communauté sur la parole de Dieu. Il refuse la scène à certains hommes d'affaires qui mènent une vie débauchée. Son œuvre littéraire est énorme et on lui connaît plus de 4200 lettres. Pierre Viret, en voilà un qui est né tout près d'ici, à Orbe. Il constituait, avec Jean Calvin et Guillaume Farel, le fameux trépied de la réforme en Suisse romande. Calvin, c'était le théologien, Farel, l'évangéliste, le prédicateur, et Viret, c'était l'homme doux, le pasteur débonnaire. Le jour des rameaux 1531, à Orbe, Guillaume Farel se lance dans une prédication enflammée et un grand tumulte l'empêche de se faire entendre. Il a eu le temps de remarquer dans l'assemblée deux jeunes hommes qui sont captivés par sa prédication, dont Viret. Et donc, on est le jour des rameaux 1531, donc quelque part en mars et avril, et puis le 6 mai 1531, jeune étudiant, Farel demande à Viret de prêcher son premier sermon. Et il officiera également à Payerne, Neuchâtel, Lausanne, Genève, Nîmes, Montpellier, Lyon, Orange, Pau et La Rochelle. Il encourage la traduction des psaumes en béarnais. Encore une fois, un qui souhaite que la parole de Dieu soit accessible dans la langue des gens du peuple. John Knox, 1514-1572, lui, c'est un Écossais. Il découvre la Bible et il est émerveillé de rencontrer dans le texte inspiré une autorité sans faille. Il étudie le grec et l'hébreu. Il ne sépare jamais la doctrine de la morale. La religion n'est pas qu'un rite, c'est la vie tout entière. Alors voilà, frères et sœurs, il me tenait de dire quelques mots sur ces pré-réformateurs et sur ces réformateurs pour vous montrer que l'accès au texte biblique a été déterminant pour eux. La plupart se sont convertis parce qu'ils ont eu enfin accès au texte biblique. C'était des hommes cultivés qui savaient le latin, le grec ou l'hébreu. Ils ont pu se rapprocher ainsi du texte biblique, mener des travaux de traduction pour rendre la Bible compréhensible pour le peuple. Leur amour de la parole de Dieu les a conduits à vivre selon ce qu'elle enseigne et à rejeter ce qu'ils ont compris à cette lumière comme étant des hérésies. Nous en arrivons à un grand débat entre l'Église officielle de ce temps-là et puis les réformateurs. Est-ce que la réforme est véritablement un retour à l'enseignement des apôtres et des pères de l'Église? Alors, les pères de l'Église, c'est qui? Les pères de l'Église, ce sont certains auteurs qui sont même contemporains des apôtres, qui ont vécu du temps des apôtres et qui les ont directement suivis, jusque dans les premiers siècles, après Jésus-Christ. Ils ont reçu le titre de père de l'Église parce qu'ils ont vécu dans la sainteté, ils avaient une vie morale conforme à la doctrine biblique, ils ont professé cette doctrine chrétienne dans leurs écrits et ils ont reçu l'approbation de l'Église. On peut citer dans les contemporains des apôtres Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne. Et puis, dans les premiers siècles, Tertullien, Irénée, Origène, Jean Chrysostome, Saint Augustin, etc., etc., il y en a toute une série. Quel est le reproche de l'Église catholique aux réformateurs? Ils disent, non, mais avec avec ce que vous enseignez, vous rejetez la tradition de l'Église et l'enseignement des pères de l'Église. Un point qui est important ici de préciser. Les réformateurs n'étaient pas d'accord sur tout entre eux. Les controverses entre eux étaient nombreuses, particulièrement sur deux thèmes, la scène et le baptême. Pour l'Église catholique officielle de ce temps-là, on croit à la transsubstantiation, la présence charnelle de Jésus-Christ dans les éléments de la scène. Pour les luthériens, on croit à la consubstantation, la présence effective, invisible de Jésus-Christ dans la scène. Pour Ulrich Zwingli, lui, il y voit une symbolisation, une allusion symbolique à la présence de Jésus-Christ, et les calvinistes spiritualisent la scène, c'est-à-dire qu'ils voient la présence spirituelle authentique de Jésus-Christ. Et le baptême, certains d'entre eux prêchent pour le baptême enfant, gardent l'héritage qu'ils ont eu jusque-là, et d'autres pour le baptême adulte. Donc, je crois que c'est très important de constater que le mouvement de la réforme, s'il a été vraiment le désir d'un retour à l'écriture et à l'évangile, eh bien, il comporte des variantes, des couleurs différentes, chacun des réformateurs n'étant pas toujours d'accord avec l'un ou l'autre de ses autres confrères sur certains de ces thèmes importants. Alors, quelle est la réponse des réformateurs à cette accusation des gens qui voulaient poursuivre la tradition? Alors, je vais vous lire une citation de ce que Calvin a dit sur les pères de l'Église. « Ces pères anciens ont écrit avec sagesse des choses excellentes, mais il leur est aussi arrivé en plusieurs endroits de se tromper ou d'errer ce qui est humain. Nos détracteurs, selon la droiture d'esprit, de jugement et de volonté qui est la leur, adorent seulement les erreurs et les fautes des pères de l'Église, tandis que les choses qui ont été bien dites par eux, ou ils ne les voient pas, ou ils les dissimulent, ou ils les pervertissent, comme si leur seul souci était de recueillir de la fiente dans de l'or. » C'est fleuri. Et ensuite, ils nous poursuivent bruyamment, comme si nous méprisions les pères de l'Église et étions leurs ennemis. Il s'en faut de beaucoup que nous les méprisions, car si c'était l'objet de notre présent propos, il me serait facile d'appuyer sur leur témoignage la plus grande part de ce que nous affirmons aujourd'hui. Donc Calvin dit oui, ce que nous affirmons aujourd'hui, nous pouvons aussi l'affirmer sur la base de ce que disaient les pères de l'Église. Luther a dit, en citant Augustin, j'eus la joie de constater qu'il enseignait à comprendre que la justice de Dieu est celle par laquelle nous sommes justifiés. Donc cette doctrine de la justification par la grâce, eh bien, Augustin l'enseignait déjà. Calvin dit sur Augustin, le chemin de la conversion m'a été ouvert par Augustin. Et il dit encore, en 1552, « Je suis à ce point en accord avec Augustin que si je devais rédiger une confession écrite, il suffirait que je propose une composition entièrement constituée d'extraits de ses écrits. » Donc au Moyen-Âge, on voit qu'il y a eu beaucoup de citations de saint Augustin, c'était l'un des pères de l'Église qui était les plus lus. Et en lui faisant référence, les réformateurs sont héritiers de leur époque. Ils reconnaissaient aussi les décisions des premiers conciles et certaines doctrines, comme celle de la Trinité. Et les réformateurs, ainsi, montraient leur fidélité à l'Église primitive, celle qui avait directement suivi celle que nous trouvons dans les Épîtres avec les Actes des Apôtres. Ce recours aux pères de l'Église a été une arme contre l'Église romaine. Les écrits des pères de l'Église démontraient en effet que l'Église catholique s'était petit à petit éloignée de la pensée biblique et celle des premiers temps de l'Église. Leurs écrits furent donc utilisés par les réformateurs à des fins polémiques pour montrer que ce que eux affirmaient, eh bien, était bien quelque chose de biblique qui avait été enseigné par les apôtres et par ceux qui les avaient précédés, qui les avaient suivis, pardon, les pères de l'Église. Alors, laissons sur ce point Calvin conclure. Nous lisons les écrits des pères de l'Église et les jugeons en nous souvenant de ce que dit saint Paul. « Toutes choses sont à nous pour nous servir, non pour dominer sur nous. Et vous êtes à Christ, auquel il faut obéir toujours et entièrement. » Ceux qui n'observent point cela ne peuvent rien avoir de certain en matière de foi, puisque les saints pères en question ont ignoré beaucoup de choses, sont très différents les uns des autres et même parfois se contredisent. Donc les principaux réformateurs ont souvent cité les pères de l'Église lorsque leurs écrits leur semblaient conformes à l'enseignement biblique, tout en prenant leur distance là où ils ne pouvaient les suivre dans leurs interprétations et leurs idées. Alors voilà ce verset très important d'Éphésiens 2. « Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. » Nous en arrivons à sola scriptura, l'écriture seule. Quelques citations des pères de l'Église au sujet de l'écriture. Grégoire de Nazianze. Les plus petites lignes de l'écriture sont dues aux soins minutieux du Saint-Esprit. Nous devons donc prêter attention aux plus légères nuances du sens. Augustin. Toute l'écriture a été écrite par les doigts de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit qui remplissait les hommes de Dieu. Nous puisons notre foi dans l'écriture seule et cette source unique sert à l'affermir. Athanase. Les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sont la source de notre salut, à laquelle quiconque a soif peut toujours puiser. C'est par cette source seule que la connaissance de la vie éternelle nous a été transmise. Que personne n'y ajoute rien, que personne n'en retranche rien. Les saintes Écritures sont divinement inspirées et suffisent pour faire entendre la vérité. Jean Chrysostome, pourquoi nous est-il recommandé d'avoir recours à l'Écriture sainte ? Parce que depuis que les traditions humaines commencèrent à se manifester dans l'Église, il ne resta à ceux qui voulurent connaître la vraie foi aucun refuge comme preuve incontestable des vérités du christianisme que la Sainte Écriture, et la Sainte Écriture seule suffit. Les pré-réformateurs parlaient déjà de ce principe de l'Écriture seule, sola scriptura. Et puis, dans les réformateurs, Luther disait « Les Écritures sont divines, en elles Dieu parle, elles sont sa parole. Entendre ou lire les Écritures, ce n'est rien d'autre que d'entendre Dieu. » Il disait aussi « Le prédicateur doit prêcher seulement la parole de la Sainte Écriture, car la Bible est l'Écriture même de l'Esprit. » Zwingli, il répond au vicaire de Constance qui lui propose, dans le cadre d'une polémique, d'en référer aux universités de Paris, de Cologne, de Louvain. Et puis Zwingli lui dit « Non, non, ce n'est pas nécessaire. Nous avons déjà un juge impartial et infaillible. Il est dans l'Écriture sainte. Elle ne peut ni mentir, ni tromper. » Et Calvin, « S'il survient quelques controverses, elle ne se doit point décider au plaisir des hommes, mais par la seule autorité de Dieu. Puisque le monde est aujourd'hui en grand trouble par la diversité des opinions, il n'y a point d'autre remède. Il nous faut avoir notre refuge en l'Écriture. » Donc on voit cette affirmation de l'Écriture seule. Alors je vous invite, frères et sœurs, maintenant à réfléchir à la suite de ces pères de l'Église que nous avons cités sur l'Écriture et des réformateurs. Je vous invite à réfléchir pourquoi l'Écriture doit être centrale dans nos vies personnelles, de famille et d'Église. L'Écriture doit être centrale à cause de sa nécessité. La lumière naturelle que nous pouvons avoir comme hommes, c'est-à-dire la conscience que Dieu nous a donnée, les beautés de la création, tout ce qu'on retrouve dans Romains 1, ce n'est pas suffisant pour nous conduire au salut. Ça nous donne une idée de qui est Dieu, qu'il existe une force supérieure, qu'il existe un être supérieur, mais ce n'est pas suffisant pour nous conduire au salut. L'Écriture, elle est aussi absolument nécessaire pour être sauvé. Et je vous invite à tourner vos Bibles dans Romains 10, au verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi et de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 1, au verset 21, car puisque dans la sagesse de Dieu, le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. L'Écriture est nécessaire pour être sauvé. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend par la parole de Dieu, et c'est par la folie de la prédication que Dieu a sauvé ceux qui croient. L'Écriture est nécessaire pour être sauvé. Elle est nécessaire également pour croître. Dans Hébreux, au chapitre 4 et au verset 10, au verset 12, il est dit « Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. » Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs sont nécessaires en vue du perfectionnement des saints pour l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, verset 12. Et le psaume 119, verset 25 nous dit « Ta parole m'a fait vivre ». L'Écriture est donc, doit être centrale dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église, parce qu'elle est absolument nécessaire au salut et à notre croissance. L'Écriture, elle doit aussi être centrale à cause de son autorité. La Bible, elle est inspirée. 2 Timothée 3, verset 16 nous dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu ». Inspirée, le terme grec « théopneustos » veut dire « soufflée par Dieu », produite par le souffle créateur de Dieu. L'Écriture est donc sortie directement par le souffle de Dieu. René Pache dit sur l'inspiration « L'inspiration est l'influence déterminante exercée par le Saint-Esprit sur les auteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour qu'ils annoncent et rédigent de façon exacte et autorisée le message reçu de Dieu. » Donc la Bible est inspirée. Elle est la parole de Dieu aussi. Ce n'est pas une volonté d'homme. Par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, nous dit 2 Pierre 1, verset 21. Dans l'Ancien Testament, vous retrouvez, écoutez-moi bien, 3808 fois le terme ou une expression qui montre que ce qui est dit est une retransmission des paroles expresses de Dieu. 3808 fois. Et dans le Nouveau Testament, la prédication de Jésus-Christ et des apôtres était appelée la parole de Dieu. Dans Luc 5, verset 1, il est dit « La foule se pressait autour de lui, autour de Jésus, pour entendre la parole de Dieu. » Et puis, Paul écrivait aux Thessaloniciens « En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole d'homme, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu en qui agit en vous, qui croyez. » Donc, la Bible non seulement est inspirée, mais elle est parole de Dieu. Et comme croyants évangéliques, nous croyons à l'inspiration plénière et verbale de l'Écriture. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression qui est utilisée quelquefois ? L'inspiration plénière, ça veut dire que l'inspiration de l'Écriture est entière et sans restriction. Et on voit tout au long de l'Écriture des hommes comme Moïse, comme le psalmiste, comme Jérémie, comme Jésus, Paul et Jean. Et pour citer Jean, par exemple, lui, il dit dans l'Apocalypse, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont certaines et véritables. » Donc nous croyons vraiment que toute la parole de Dieu a été inspirée sans restriction aucune. Nous croyons aussi qu'elle a l'inspiration plénière et verbale. Verbale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous croyons que l'inspiration de l'Écriture, elle porte jusqu'aux mots qui sont utilisés dans l'original. Spurgeon disait... Nous défendons chaque mot de la Bible et croyons en l'inspiration verbale et littérale de l'Écriture. En fait, nous croyons qu'il ne saurait y en avoir d'autres. Si on nous enlève les mots, le sens exact du texte est perdu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que peut-être nos versions françaises comportent des inexactitudes ou, j'aime pas dire des erreurs, mais peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Mais si on se réfère au texte de la source grecque, hébreu, nous croyons, comme croyants évangéliques, que l'inspiration des Écritures est plénière et verbale. C'est-à-dire que c'est exactement les paroles que Dieu a soufflées à ses serviteurs qui l'ont ensuite écrit. Et qu'est-ce qu'il y a comme plus beau témoignage que ces fameux écrits, rouleaux, qui ont été retrouvés à Qumran, sauf erreur dans les années 60 ou 50, j'ai plus la date exacte en tête, et où, en reprenant tous ces rouleaux qui avaient été conservés dans un état incroyable, parce que vous savez qu'il fait très sec là-bas, donc il n'y a pas d'humidité, eh bien, on a pu avoir des extraits importants, notamment du livre d'Ésaïe et d'autres textes bibliques, et on a pu comparer avec les textes sur lesquels les savants avaient écrit jusqu'ici, les comparer avec ces textes retrouvés il y a à peine 60 ans et voir que tout correspondait. C'est un miracle. Donc nous croyons vraiment à l'inspiration plénière et verbale de l'Écriture. Nous croyons aussi à l'inhérence de l'Écriture. Ça veut dire que la Bible ne comporte aucune erreur dans sa forme originelle, dans les manuscrits d'origine, en ce qui concerne la foi et la vie du croyant, qu'au sujet du texte et des détails relatifs aux thèmes scientifiques, historiques et géographiques. Alors oui, il y a des choses qui sont des fois difficiles à comprendre, mais il y a toujours une explication. Il y en a encore qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui. Mais on a compris certaines explications, pourquoi dans l'Évangile, une fois, il est dit qu'il sortait de Jéricho, puis qu'il a rencontré un aveugle, et puis dans l'autre Évangile, il est dit qu'il entrait dans Jéricho. Enfin, il y a un certain nombre de comparaisons qui sont faites, par exemple dans les Évangiles, entre des choses qui sont racontées différemment. Et si on s'appuie sur l'archéologie, si on s'appuie sur la connaissance que l'on a, on arrive souvent à expliquer ces contradictions simplement par deux points de vue un petit peu différents. Par exemple, une architecture de la ville qui était spécifique et qui pouvait très bien permettre de dire à l'un qu'il entrait dans la ville et à l'autre qu'il en sortait. La Bible est notre seule autorité également. Et j'aimerais dire que une église fidèle aux Écritures est une église qui croit à l'inspiration verbale de toute la Bible. Dieu a inspiré les mots que les auteurs ont employés et non seulement les idées de la Bible. Une telle église se soumet donc entièrement à tout le conseil divin et ne conteste aucune affirmation de l'Écriture au nom de quelque revendication humaine que ce soit, je cite Pascal Desnoeuds. L'Écriture, elle doit être aussi centrale pour nous à cause de sa suffisance. La parole de Dieu est vivante, efficace, tranchante. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole de Dieu, si elle peut m'atteindre au plus profond, elle régénère également, elle engendre la nouvelle naissance. 1 Pierre 1, verset 23. Vous êtes régénérés non par une semence corruptible, mais une semence incorruptible par la vivante et permanente parole de Dieu. La parole de Dieu, enfin, accomplit tous les desseins de Dieu. Elle produit l'effet que Dieu souhaite. Elle réalise ce qu'il veut. Elle accomplit le but qu'il lui donne. Vous connaissez ce verset qu'on peut lire ensemble dans Ésaïe 55, verset 11. Un beau verset aussi sur la parole de Dieu. Celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Alors, frères et sœurs, si nous ne sommes pas persuadés de la suffisance de la parole de Dieu, nous finirons par prendre autre chose que la parole de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est bien le drame, de mon point de vue, de certaines églises et certains mouvements évangéliques aujourd'hui. Si nous ne sommes plus convaincus de la puissance et de la suffisance de la parole de Dieu, nous prenons autre chose que cette parole pour faire l'œuvre de Dieu. Alors, nombre d'églises tombent dans ce piège en cherchant des moyens qui ne sont pas spirituels pour attirer, par exemple, des gens à l'église. Ces moyens démontrent que les chrétiens ont de moins en moins confiance dans la suffisance des Écritures. Alors, frères et sœurs, quelques questions pour nous. La Bible est-elle suffisante pour nous dire comment élever nos enfants, ou est-elle archaïque ou dépassée? L'enseignement du Christ sur la mort à soi-même est-il suffisant pour résoudre nos problèmes d'ego? La parole des apôtres est-elle suffisante pour nous dire comment chacun doit bâtir? La prédication de la croix peut-elle encore sauver les brebis du Christ, ou faut-il trouver un message plus attrayant pour attirer les gens à l'Église? Sola scriptura et non solo scriptura. Qu'est-ce que ça veut bien dire? J'aimerais d'abord affirmer que la tradition catholique et les réformateurs sont le plus souvent d'accord sur l'importance de l'Écriture. Saint Augustin, l'un des pères de l'Église, écrit déjà au IVe siècle que la Bible est la norme suprême. Mais la tradition catholique ajoute que c'est l'Église qui définit le sens exact de l'Écriture et en donne la bonne interprétation. Cajetan, le représentant du pape qui s'oppose à Luther, déclare que toute interprétation doit se trouver en consonance avec les commentaires antérieurs et avec la doctrine de l'Église. Le théologien catholique Müller affirme « l'Église est l'interprète infaillible de l'Écriture sainte ». Or de ceci, quelle est la conséquence ? C'est que la doctrine de l'Église et la doctrine de l'Écriture sont une seule et même chose, et c'est là où les réformateurs ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qui répond Luther à ça? Ce n'est pas l'Église qui détient et qui définit le sens exact de l'Écriture et qui en donne la bonne interprétation. L'instance habilitée à interpréter l'Écriture est la conscience liée par la parole de Dieu. Donc Luther, en disant ça, il opère une rupture révolutionnaire, non pas en proclamant l'autorité de la Bible, tout le monde était d'accord là-dessus, même les catholiques, mais il contestait que la Bible et l'interprétation traditionnelle formait une unité indissociable. Il brise cette unité, il oppose l'Écriture à l'Église. C'est un des sens du sola scriptura, la Bible sans l'interprétation traditionnelle de l'Église. La Réforme reproche au catholicisme de ne pas faire ou de ne pas respecter cette distinction, autrement dit de confondre l'autorité de la Bible et l'autorité de l'Église. Le catholicisme tend à fonder la validité de la Bible sur l'autorité de l'Église. Au contraire, pour la Réforme, la validité de l'Église dépend de sa fidélité à l'Écriture. Les réformateurs ne veulent pas soumettre l'interprétation de la Bible à l'Église. C'est bien ça le point. Zwingli disait « Les pères doivent être soumis à la parole de Dieu et non la parole de Dieu aux pères. » Et le synode de Westminster en 1649 dit « Tous les synodes ou conciles peuvent s'être trompés et beaucoup se sont trompés. Par conséquent, ils ne peuvent être reçus comme règles de foi et de vie. Mais pour la foi et la vie, ils doivent être utilisés comme des aides. » Le principe donc de sola scriptura ne veut pas dire « nous ne voulons connaître aucun autre livre que la Bible », mais « seule la Bible a pour nous une autorité décisive ». Et nous en venons au danger actuel de solo scriptura. Le danger aujourd'hui pour le monde évangélique, c'est d'en venir au solo scriptura. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'écriture en solitaire. L'écriture n'a plus de sens objectif et commun, mais un sens rien que pour moi. Les exégètes, commentateurs et prédicateurs n'ont plus d'autorité comme interprètes du texte sacré, car le Seigneur montre à chacun individuellement ce qu'il veut lui dire personnellement. Cette idée vient d'une tradition mystique et non de l'écriture sainte. De toute évidence, frères et sœurs, la Bible ne cautionne pas la tendance de solo scriptura. L'écriture fut révélée de Dieu, ce ne sont donc pas les prophètes ou l'Église qui donnent le sens à la parole de Dieu, mais celle-ci a un sens en elle-même. Le sens d'un texte est objectif et ce sens est le même pour tous, même si l'application peut différer d'une personne à l'autre. Mais le sens du texte, il est le même pour toi, pour moi. Pierre déclare que le sens d'un texte est objectif lorsqu'il écrit « Les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des lettres de Paul comme celui des autres Écritures » en 2 Pierre 3, verset 16. Notre tâche, donc, comme croyants, est de découvrir le sens objectif et non d'inventer un sens pour nous-mêmes. Combien de fois j'ai entendu « Oui, mais pour moi, ça veut dire ça. » Mais est-ce que tu es sûr, si tu étudies vraiment le texte, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Regarde le même mot utilisé dans d'autres endroits du texte biblique. Regarde le contexte de ce texte et constate avec moi que telle interprétation est fausse. Par contre, telle autre paraît beaucoup plus en accord avec tous les autres textes bibliques. Et c'est un gros travail, découvrir le sens objectif de l'écriture, non inventer un sens pour nous-mêmes. Dans Luther écrit, dans la captivité babylonienne de l'Église, les paroles de l'écriture doivent être retenues dans leur signification la plus simple. À moins que le texte ne l'exige manifestement, elles ne doivent pas être comprises à l'encontre de la grammaire et de leur sens propre. La règle d'excellence pour interpréter l'écriture, c'est l'écriture elle-même, l'écriture par l'écriture elle-même. Par conséquent, quand il se pose une question au sujet du sens véritable et plein d'un passage de l'écriture, la réponse doit être décidée sur la base d'autres passages qui parlent plus clairement de ce sujet. Donc, le principe de sola scriptura, de l'écriture seule, ne signifie pas supprimons l'intelligence, supprimons la réflexion, la comparaison du texte biblique avec d'autres textes bibliques, supprimons les études, supprimons les facultés de théologie, jetons aux orties les commentaires bibliques, c'est Dieu qui me parle à ce moment-là. C'est ce qui se dit ici et là. Mais sola scriptura veut plutôt dire développons, approfondissons et répandons largement la culture théologique pour mieux comprendre les Écritures, pour être sûr de bien les comprendre, de les interpréter dans leur contexte. Donc, comme chrétiens évangéliques, utilisons tous les trésors mis à notre disposition. Faisons preuve de l'esprit béréen. Nous arrivons à la fin. Je veux dire deux mots rapides de la contre-réforme. Après ce mouvement important de réforme commencé en 1517, l'Église catholique réagit en 1545, donc 28 ans plus tard. Paul III, qui est le pape, à ce moment-là, il prend les choses en main et il convoque un concile à Trente en Italie qui va durer 20 ans, en trois phases. Qu'est-ce qui va être décidé dans ce concile? Paul III choisit de réformer la bureaucratie papale et d'interdire de vendre des nominations ecclésiales. Donc, il y a déjà un mouvement de réforme qui voit le jour dans l'Église catholique. Par contre, le Concile réaffirme un certain nombre de choses avec lesquelles nous ne pouvons pas être d'accord. L'inspiration des livres apocryphes, il interdit la lecture de la Bible en langue vulgaire, c'est-à-dire dans la langue du peuple, en anglais, en français, en espagnol, sans autorisation spéciale, il faut toujours utiliser la Vulgate. Il met la Vulgate au même niveau que les textes originaux. Hein. Attention, on croit à l'inspiration, à l'inhérence de la Bible et à son inspiration plénière et totale et entière, mais c'est du texte original. Et mettre la Vulgate au même niveau, on ne peut pas être d'accord avec ça, puisque c'est une traduction. Il proclame la justification par la foi et les œuvres, et le mérite de ces dernières. Il réaffirme l'existence du purgatoire. Il maintient les 7 sacrements et le célibat du clergé. Et le concile a permis aussi au pape de reprendre la main sur le concile. Parce que jusque-là, le pape était soumis à l'autorité du concile, et à partir du concile de Trente, il arrive à retourner la chose et à soumettre le concile à sa propre autorité. Et puis Vatican I mettra un point final à cette question en proclamant l'infaillibilité du pape. Donc ce concile s'est déroulé en 3 phases. Et lors de la 2e phase, il y a des délégations de protestants qui s'y sont rendus dans l'espoir de transformer, changer l'Église. Et puis comprenant qu'ils n'obtiendraient rien, au vu de la majorité des votes accordés aux délégués pro-papal, ils quittèrent le concile. Et on peut dire, à ce moment-là, la rupture avec les protestants était consommée. Que faisons-nous de cet héritage? En préparant cette rencontre sur la réforme, j'ai été frappé par l'amour des réformateurs pour la parole de Dieu. Et le prix qu'ils ont été prêts à payer pour la connaître eux-mêmes et la faire connaître à d'autres. Quelques exemples. Valdo reste caché durant 3 ans à Lyon pour échapper d'être jugé et brûlé. Jean Hus, accusé d'hérésie, condamné au bûcher, meurt, brûlé vif, en chantant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Luther a été régulièrement menacé, accusé. Il était souvent affaibli, usé par son travail. Zwingli a été blessé à Capel. Aumônier des troupes, il mourra exécuté sur le champ de bataille. Farel, il était battu à Valangin, traîné jusqu'à la chapelle, forcé de s'agenouiller et on lui ordonne « Juif, adore ton Dieu ». On le frappe, on lui frappe la tête contre une pierre. Calvin, régulièrement menacé, obligé de s'enfuir à Paris, à Bâle, d'une ville à l'autre. Viret, agressé par un coup d'épée à Payerne par un prêtre, destitué et banni à Lausanne, empoisonné à Genève par une servante soudoyée, découragé par ses concitoyens, écoutez bien, c'est une citation de sa part, qui sont heureux d'être délivrés du jour de l'Antichrist, mais ne veulent pas porter celui de Jésus-Christ, attendant qu'on leur prêche un évangile sans repentance et sans amendement de vie. Farel se fait frapper et insulter par des femmes en furie après un prêche à Orbe. Knox, l'Écossais, il est déporté et enchaîné dans une galère. Frères et sœurs, quel prix a pour nous la parole de Dieu. Est-ce que nous lisons ce trésor que nous avons entre les mains dans notre langue, dite vulgaire? Est-ce que nous profitons des générations de croyants qui l'ont commenté en sachant les forces et les faiblesses des uns et des autres? Mais rendez-vous compte, l'héritage qu'on a, ça vaudrait la peine une fois, sur un texte biblique, de lire à la fois les pères de l'Église, qu'est-ce qu'ils en ont compris, tout en sachant que leur compréhension était limitée, de lire ensuite ce que les réformateurs ont trouvé sur ce texte biblique, et puis après, de lire ce que les prédicateurs du réveil, il y a 200 ans en arrière, ont trouvé sur ce texte, et aujourd'hui encore, il y a d'autres prédicateurs qui ont des excellents commentaires bibliques. Quel héritage nous avons entre les mains pour comprendre ce texte, parfois si difficile. Est-ce que la parole de Dieu est notre guide, notre repère personnel, notre repère pour la famille, notre repère pour notre église locale. J'aimerais terminer, avant de citer un texte biblique, par 4 citations d'Ulrich Zwingli que je trouve magnifique. Alors, écoutons ce que Zwingli nous dit. Lorsque nous recevons une lettre d'un ami très cher, nous la portons toujours sur nous et nous la montrons à tout le monde. Pourquoi n'agirions-nous pas ainsi avec l'Écriture sainte ? Elle nous vient du Père céleste qui nous l'a envoyée du ciel par son Fils. Une autre citation. « Ainsi donc, vous, chrétiens pieux, retournez à la parole. » À la parole. Elle rend sage pour accéder à la félicité et enseigne tout ce qui est bon. Une autre citation. Si le pasteur n'a plus le droit de dire la vérité dans l'Église, qu'on engage un ménestrel avec fifre et lutte, car voilà ce que tout le monde aime et qui ne scandalise personne. Dernière citation, voici notre règle à nous chrétiens. Il vaut mieux être mis à mort que de nous donner, écartés de la vérité ou de la passer sous silence après l'avoir reconnue. Et je conclue par ce psaume 119, verset 162. J'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin.